VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Burundi, un leader d'opposition arrêté aujourd'hui par la police dans le quartier contestataire de Mutakara à Bujumbura, la capitale. Hugo Arama Tegeko, président du parti Nouvelle Alliance pour le Développement du Burundi, Nadebou, a été appréhendé chez lui dans ce quartier du nord-est de la capitale, a annoncé à l'AFP un membre de sa famille ayant requis l'anonymat. L'AFP n'a pas encore pu joindre le porte-parole de la police Pierre Nkurijije pour confirmation ou démenti. Par contre, Charles Nditidje, président de l'aile majoritaire de l'UPRONA d'opposition, confirme l'arrestation de Hugo Arama Tegeko. Élection tchadienne du 10 avril, le député Ngaoledji Yuronga, chef du parti Fédération Action pour la République, qui a vu sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel le 2 mars, estime qu'il a été écarté de la course à la présidence en raison de sa popularité électorale, présentant une menace pour le président sortant Idriss Déby, qui brigue un nouveau mandat. L'explication du député Yuronga au micro de Nathalie Barge.
S'il y a une candidature qui devrait être rejetée, c'est celle d'Idriss Déby. Et pourquoi? Déby est chef traditionnel dans son village. Or, la loi dit un chef de village, s'il veut prétendre à un poste électif, il faut qu'il démissionne de son poste de chef traditionnel. Deuxièmement, Déby s'est délivré de casier judiciaire, pas dans le lieu de sa naissance, mais ailleurs. Ce qui constitue une infraction. Donc, cette pièce entache la régularité de sa candidature.
Quelles ont été les raisons du rejet de votre candidature?
Au terme de l'article 121 du Code électoral, le choix de l'emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales, bleu, or, rouge, est interdit. Or, l'emblème du MPS parti de Déby comporte les trois couleurs. Pourquoi on rejette mon dossier? Tout simplement parce que je n'ai pas joint l'emblème et ma photo d'identité. J'ai été 3 fois candidat. Je n'ai jamais joint ni mon logo, ni ma photo d'identité. Or, c'est la raison invoquée pour pouvoir m'éliminer.
Ngaoledji Yuronga, candidat à la présidence écarté par la Cour constitutionnelle au Tchad. Afrique de l'Ouest maintenant, Sénégal, 27 millions d'euros de biens appartenant à Karim Ouad, fils de l'ancien président sénégalais et ex-ministre, ont été à ce jour restitués au Sénégal. Karim Ouad a été condamné à 6 ans de prison, rappelons-le, pour enrichissement illicite. Le Nigeria et la Suisse font état de la signature d'une lettre d'intention pour restituer au Nigeria 321 millions de dollars détournés par l'ancien dictateur Sani Abacha. Sani Abacha, au pouvoir de 1993 jusqu'à sa mort en 1998, est accusé d'avoir détourné plus de 2 milliards de dollars de la Banque centrale nigériane. Les 321 millions de dollars avaient été déposés au Luxembourg puis confisqués par un tribunal à Genève en décembre 2014. Toujours au Nigeria, des syndicats de la Compagnie nationale de pétrole ont entamé aujourd'hui une grève contre le plan de restructuration du secteur pétrolier par l'État nigérian, ce qui risque d'aggraver l'approvisionnement en carburant du premier producteur de pétrole sur le continent africain, Jacques Aristide.
L'appel à la grève a été lancé par 2 importants syndicats dans le secteur du pétrole et gaz naturel, Pengasan et Nupeng, qui affirment que les opérations au sein de la compagnie pétrolière du Nigeria ont été suspendues à l'échelle nationale. Un arrêt de travail pour protester contre ce que les syndicats qualifient de décision unilatérale du ministre du pétrole de scinder la NNPC en 30 compagnies indépendantes. Pour le ministre Ibe Kachukwu, ce plan permettra de regagner le chemin de la rentabilité et stopper la corruption qui gangrène la NNPC. Les syndicats, toutefois, se disent préoccupés des conséquences de cette restructuration pour les employés et réclament des discussions avec le ministre. Après la chute des cours du pétrole qui n'ont pas manqué d'affecter le premier producteur de pétrole du continent africain, cette grève pourrait réduire les stocks déjà bas du Nigeria. Depuis 2 semaines, de longues files d'attente se sont formées dans les stations-service.
Par ailleurs, le président sud-africain Jacob Zuma poursuit sa visite d'État de 3 jours au Nigeria, une visite qui vise à renforcer les relations entre les deux principales économies d'Afrique. Les deux dirigeants vont discuter notamment de coopération en matière de sécurité. Les pourparlers surviennent dans un contexte de controverse entre les deux pays. Le président nigérian Muhammadu Buhari a estimé hier que l'opérateur sud-africain MTN avait aidé l'insurrection islamiste de Boko Haram en ne désactivant pas des millions de cartes SIM anonymes. Et puis au Niger, l'opposition s'est officiellement retirée du second tour de l'élection présidentielle prévue le 20 mars. La coalition de l'opposition nigérienne COPA 2016 soutenant l'opposant Amadou, qui devait affronter le président sortant Mahamadou Issoufou, a justifié cette décision hier par l'absence de proclamation officielle des résultats du premier tour du 21 février et l'iniquité de traitement entre les deux candidats à la présidentielle. Le principal rival de M. Issoufou, Mahamadou, est actuellement emprisonné dans une affaire controversée de trafic de bébés. On écoute le porte-parole de la COPA 2016, Ousseini Salatou.
L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016, décide de suspendre sa participation au processus électoral. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. Demande aux députés nationaux, militants des partis membres de la COPA, de cesser toute activité au sein de l'Assemblée nationale. La COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seuls responsables de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger.
Ousseini Salatou, porte-parole de l'opposition nigérienne.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique du Nord maintenant, Tunisie, nouveaux accrochages dans la région de Ben Gherdan, près de la frontière avec la Libye. 3 djihadistes et 1 soldat ont été tués aujourd'hui. Idriss Fall.
D'après le communiqué conjoint des ministères tunisiens de la Défense et de l'Intérieur, 2 terroristes ont été abattus près de Ben Gherdan et 1 soldat a été tué. Un autre djihadiste présumé, retranché dans une maison, a été tué et cette nuit, 7 autres personnes ont été abattues. En moins de 24 heures, 10 islamistes présumés ont été mis hors d'état de nuire dans les opérations de ratissage autour de Ben Gherdan. Lundi, pendant les attaques simultanées contre les installations sécuritaires de cette ville, 36 extrémistes, 12 membres des forces de sécurité et 7 civils ont été tués. Selon Tunis, les djihadistes voulaient créer un émirat du groupe État islamique en Libye. Depuis ces attaques, la ville, placée sous couvre-feu nocturne, est entièrement quadrillée par les forces de l'ordre. Ce matin, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles des victimes et une minute de silence a été observée dans toutes les écoles du pays.
Crise migratoire en Europe, les législateurs du Parlement européen ont vivement critiqué ce mercredi l'accord de principe conclu entre l'Union européenne et la Turquie. Ils ont accusé les dirigeants européens d'avoir cédé au chantage d'Ankara en échange de son aide pour gérer la crise migratoire. John Lindon.
De la droite à la gauche, des verts aux eurosceptiques, nombre de parlementaires ont tiré à boulet rouge sur le projet d'accord avec la Turquie et les marchandages qui l'ont accompagné à l'issue d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. Les dirigeants européens se donnent 10 jours pour finaliser l'accord avec Ankara. La Turquie accepterait le retour de tous les migrants arrivés clandestinement en Grèce, y compris les Syriens. Par la suite, les demandeurs d'asile qui souhaitent revenir en Europe feront passer leur dossier par Ankara, qui transmettra à Bruxelles. En contrepartie, la Turquie exige 3 milliards d'euros d'aide supplémentaire d'ici à 2018, une exemption de visa dès la fin juin pour ses ressortissants et l'ouverture rapide des négociations sur 5 nouveaux chapitres d'adhésion.
Conflit en Syrie, une nouvelle série de négociations destinées à mettre fin à la guerre civile dans le pays aura lieu à Genève du 14 au 24 mars sous l'égide de l'ONU. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'émissaire spécial onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura. Selon lui, les délégations des participants vont arriver sur place dans les prochains jours et les discussions de front commenceront le lundi 14 mars et ne dureront pas au-delà du 24. Il y aura ensuite une pause d'une semaine à 10 jours et les pourparlers reprendront par la suite, a affirmé l'émissaire onusien lors d'une conférence de presse à Genève. Rappelons qu'un précédent round de négociations également à Genève en février avait tourné court en raison de l'intensification des frappes aériennes en Syrie par la Russie qui soutient le régime du président syrien Bachar Assad. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.